Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le grand plaisir de recevoir devant ses micros Hachmi Allais. Hachmi Allais, bonjour.
Bonjour.
Hachmi Allais, un grand passionné de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, à laquelle vous avez consacré votre thèse de doctorat. Tout a commencé comme ça.
Oui. Enfin,
c'est un amour de jeunesse, on peut dire.
Exactement. Depuis le lycée, je lis et relis assidûment les œuvres de Marguerite Yourcenar.
S'il y avait deux mots, pourquoi le jeune homme que vous étiez a-t-il été attiré par Marguerite Yourcenar, sa stature, son verbe ?
C'est toujours difficile, c'est un prof de philo en terminale qui m'a conseillé, parce que j'étais passionné par la littérature, par les questions philosophiques, l'histoire, etc. Et qui un jour, dans un cours, a dit le nom de Marguerite Yourcenar et elle m'a dit « Lisez Alexis ou le traité du vain combat ». Le premier roman de Marguerite Yourcenar, donc j'avais à cette époque 17 ans, je suis allé à la bibliothèque du lycée chercher le livre et je l'ai lu et là, d'un coup, j'ai vraiment découvert un monde, un personnage, enfin un univers. Et tout de suite, j'ai voulu découvrir tout le reste, Mémoire d'Adrien, les livres, etc. Et ensuite, voilà, j'ai poursuivi, j'ai fait l'université Lettres modernes. Et bien sûr, je me suis tout à fait, très vite spécialisé dans l'œuvre de Yourcenar, jusqu'à en faire plus tard un doctorat.
Oui, alors donc, Hachmi Allais, vous devenez journaliste, donc écrivain, on en parlait, et donc un grand voyageur aussi.
Oui.
Et vous êtes actuellement directeur de la villa Marguerite Yourcenar. Une villa, rappelons-le, située dans le nord, au Mont Noir, où l'écrivain Marguerite Yourcenar, l'écrivain des Mémoires d'Adrien, a passé une partie de son enfance.
Exactement.
On peut dire, cher Hachmi Allais, que vous avez donné corps à vos rêves.
Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est bien des années après que, par diverses circonstances, et justement de nombreux voyages où j'ai vécu beaucoup à l'étranger, au Québec, en Inde, où j'ai enseigné, etc. Et à un retour, j'ai appris que le poste de directeur de la Villa Marguerite Yourcenar, qui est donc une résidence d'écrivains, qui accueille des écrivains du monde entier, située donc dans le nord de la France, dans le Mont Noir, qui est le lieu où la famille de Marguerite Yourcenar possédait un château et où elle a passé son enfance. Le poste était à pourvoir, donc j'ai automatiquement, bien sûr, posé ma candidature. Et finalement, ça fait bientôt 5 ans que je dirige cette belle institution qui est gérée par le Conseil Général du Nord.
Je rappelle aux auditeurs de Canal Académie que toute une visite de cette belle villa de Marguerite Yourcenar leur est proposée dans les programmes à télécharger de Canal Académie. Hachmi Allais, c'est formidable parce que vous avez pu donc concrétiser votre rêve, c'est-à-dire accompagner la mémoire de Marguerite Yourcenar. Et aujourd'hui, vous allez même plus loin, c'est-à-dire que vous allez transmettre un message aux jeunes générations comme quoi un rêve, c'est toujours possible de le concrétiser, de le matérialiser, d'essayer de mettre toute son énergie pour qu'il devienne réalité, pour que du rêve, on passe à la réalité et vous le leur indiquez dans un livre qui est adressé aux jeunes lecteurs. Un livre qui vient de paraître aux éditions Adodan, Marguerite Yourcenar, avec un titre qui fait déjà rêver, l'académicienne aux semelles de vent.
Oui, je crois qu'il est vraiment important, enfin moi ça m'a toujours semblé important, de faire découvrir Marguerite Yourcenar aux plus jeunes. Parce que Marguerite Yourcenar a d'abord écrit pour les enfants. Il y a certains de ses contes qui sont disponibles en folio, junior, etc. À la villa, on reçoit beaucoup de collégiens, de scolaires qui viennent pour visiter, pour participer à des ateliers d'écriture. Et on leur parle de Marguerite Yourcenar. Et il y avait toujours une demande de la part des enseignants qui les accompagnaient. Y a-t-il pas un livre, une biographie qu'on peut faire étudier en classe qui pourrait, faire partager cette passion aux plus jeunes, montrer comment cette petite fille que je décris dans le livre, une petite fille un peu solitaire au Mont Noir, au début du siècle, petit à petit va découvrir le monde, va s'intéresser à l'histoire, va construire une œuvre de liberté. Parce que c'est ça avant tout, si je devais définir Marguerite Yourcenar, c'est une femme, c'est l'apprentissage de la liberté, l'apprentissage de l'autre, de la découverte du monde. Et ces valeurs-là, je crois qu'aujourd'hui, les enfants, c'est important qu'ils les découvrent aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, Marguerite Yourcenar est un personnage qui parle vraiment aux enfants. Elle a des attachements autour, j'allais dire, de la protection de la nature, de l'amour des animaux, du dialogue interculturel, des autres cultures. Elle a voyagé dans le monde entier. Et tout ça, les enfants, ça les fait rêver aussi.
Vient de nous rejoindre devant les micros de Canal Academy Céline Aymon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des responsables des éditions Adodan, ces éditions qui viennent d'éditer Marguerite Yourcenar, l'académicienne aux semelles de vent. Un joli petit recueil rédigé par Hachmi Allais et puis illustré par Tanguy Do'Olo. Vous nous en parlerez tout à l'heure, Hachmi. Votre idée d'avoir contacté Hachmi, bon, c'est une évidence, non? Quand on parle maintenant de la mémoire de Yourcenar, on s'adresse de toute évidence à Hachmi Allais.
Oui, effectivement, c'est une référence en la matière. C'est vrai qu'on doit la genèse de ce projet à l'entremise de Viviane Lofiego, qui est poète et qui était en résidence à la Villa Montnoir à l'occasion d'un travail et qui avait également écrit un titre sur Isadora Duncan dans la collection des Graines et des Guides. Et donc, voilà, elle a parlé de ce projet-là à Hachmi, qui a répondu tout de suite, très rapidement, favorablement sur ce projet-là.
Alors, quelques autres noms de légendes qui figurent dans cette collection, faites-nous rêver et puis incitez nos auditeurs à acheter ces jolis livrets.
Oui, alors très simplement, on a voulu faire découvrir à la fois des artistes, des auteurs, mais aussi des scientifiques. Donc, en fait, se croisent et se rencontrent dans la collection à la fois Charlie Chaplin, Joséphine Baker, et puis Théodore Monod, ou bien Karen Blixen, ou François Truffaut, par exemple. Pour l'instant, nous avons 12 titres. Le Marguerite Yourcenar vient de sortir, il est tout beau, tout neuf, aux côtés de Georges Méliès et de Catherine Cousmine, qu'on connaît moins, mais qui néanmoins a un travail très intéressant autour de la nutrition. Et effectivement, le public principal concerne les enfants de 7 à 12 ans. Mais pas seulement. Les parents peuvent aussi trouver intérêt à rencontrer, à revoir ces personnages à travers un texte qui est écrit en direction des enfants, mais qui n'est pas niais ou simpliste.
Voilà, ce n'est pas un matériel destiné à l'éducation nationale, ce sont des livres qui se trouvent dans toutes les bonnes librairies.
Oui, tout à fait. Alors, on a la chance d'être accompagné par des libraires. Plus de 200 libraires aujourd'hui en France, en Belgique, en Suisse et même au Québec. Et on a différents publics, bien sûr. Et les enfants, certains enseignants s'en emparent pour mener des travaux pédagogiques. Par exemple, Karen Blixen, on a une enseignante qui a mené tout un travail autour de l'Afrique, le rapport à l'autre, avec comme support le livre autour de Karen Blixen et le film Out of Africa, en résonance. Surtout, ce qu'on voulait dire à travers cette collection, c'est qu'on peut renouer le lien entre parents-enfants ou grands-parents-enfants à travers voilà, des petits personnages. On va offrir Charlie Chaplin, derrière on peut regarder Le Dictateur ou François Truffaut et aller regarder Les 400 coups en famille. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une circulation.
Oui, c'est un matériau de communication entre les aînés et l'enfant. Acheter ce livre, c'est leur faire la proposition de s'intéresser à un personnage important, un personnage voire contemporain, mais un personnage de légende qui appartient à la pensée universelle, qui peut nous apporter, qui peut leur apporter. Ce sont des écrits de communication intergénérationnelle. C'est ce que vous voulez nous expliquer ?
Oui, tout à fait. C'est aussi faire en sorte que le monde qui vient ne soit pas sans mémoire et qu'on ait bénéfice en fait du parcours de vie de grands personnages. Quel que soit leur milieu social initial, c'était vraiment intéressant d'ouvrir en fait sur des enfants qui ont, avant d'être des adultes, ont été des enfants, qui sont issus de milieux sociaux différents. Myriam Makeba, qui vient des ghettos sud-africains, voilà, parce que sa grand-mère l'a accompagnée, parce qu'elle s'est consacrée au chant, a accordé une place importante à la défense des droits de l'homme. Enfin voilà, c'est vraiment des histoires de parcours. Ce sont pas des biographies intégrales. Marguerite Yourcenar, voilà, on part de l'enfance et puis tout d'un coup, on arrive à ce qu'elle a porté. C'est pas ennuyant, didactique au sens propre. On parcourt la vie de ce personnage qu'est Marguerite, par exemple, Yourcenar, un peu comme une épopée. Voilà, on a l'impression que c'est facile au final, mais tout se fait aussi dans l'enfance de ce personnage-là.
Alors, comment avez-vous entrepris cette tâche, cette lourde tâche, Hachmi Allais, de concentrer Marguerite Yourcenar dans ces combien de pages ?
48.
48 et pas une de plus. Alors, bon, et on termine très joliment avec un petit lapin sur le pont des Arts, de dos, assis, et qui regarde l'institut où nous sommes. C'est très joli voilà. Comme image de fin.
Ben écoutez, pour moi, ça a été aussi un plaisir. Je suis spécialiste de Marguerite Yourcenar et donc j'ai l'habitude d'écrire des articles, des préfaces. Comme vous l'avez cité, j'ai publié plusieurs livres sur Marguerite Yourcenar. Et donc, je m'adresse souvent à des spécialistes ou à des adultes. Mais il se trouve que par ailleurs, moi, je suis auteur pour la jeunesse. Je publie des romans déjà chez plusieurs éditeurs sur les enfants, etc. Donc, pour moi, faire passer ma passion de Yourcenar pour les enfants, c'était presque naturel. C'est pour ça que dès que j'ai appris l'existence de cette collection, je trouvais que c'était...
C'était incontournable pour
c'était
vous.
Fabuleux, hein.
Et
c'était
fabuleux. Et le moment était là, donc c'était
intéressant.
Parfait.
Voilà. Alors, après, c'est vrai qu'il fallait faire des choix. Et des choix qui parlent aux enfants d'aujourd'hui et des échos. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de l'amour de Marguerite Yourcenar pour la nature, la préservation de la nature, l'écologie, de sa passion pour le voyage, la découverte du monde et des choses qui font rêver. Sa façon d'avoir une existence toujours libre. Donc voilà, j'ai choisi des séquences, forcément, 48 pages, je ne pouvais pas raconter sa vie. Et puis, justement, on parle de l'institut où nous sommes. J'ai commencé justement par l'élection de Marguerite Yourcenar à l'Académie française parce que ça a été révolutionnaire. C'était la première femme. Et j'allais dire, dans l'histoire de la littérature aujourd'hui, dans les écoles et ailleurs, on parle de ces questions de genre, de féminisme, de droits des femmes, etc. Il y a des choses qui se perdent assez vite. Nous, l'année dernière, à la Villa, on a fêté le 30e anniversaire de l'élection de Marguerite Yourcenar à l'Académie française. C'est inscrit maintenant dans les livres d'histoire, l'histoire culturelle, de la littérature, etc. Mais pour les enfants, de leur rappeler qu'il y a encore 30 ans, ça paraissait exceptionnel qu'une femme puisse être également académicienne, considérée comme un grand écrivain. Donc c'est pour ça que c'était un peu avec une provocation qu'au départ, le premier chapitre, c'est Yourcenar qui débarque à l'Académie française en tant que femme de talent.
Alors, vous choisissez de très beaux titres pour chacun de vos chapitres. L'école de la liberté, écrire et voyager en liberté, l'ami des arbres et de la terre, vous nous le disiez, ou encore, il faut toujours résister.
Voilà, ça, c'est une citation de Marguerite Yourcenar. C'est une citation qu'on retrouve régulièrement dans sa correspondance, cette formule qui paraît étonnante de la part de Marguerite Yourcenar, mais pas du tout. C'est une femme qui a résisté à tout, qui a résisté à son siècle, qui a résisté à la mode, qui n'était pas... Quand les gens étaient surréalistes ou ont adopté le nouveau roman, elle a toujours été en contre-courant. Elle a toujours voulu faire ce qu'elle avait envie de faire et défendre sa liberté. Et c'est en ce sens que... Voilà, mais je pense que c'est important aux enfants de dire on peut avoir des parcours singuliers, décider soi-même de son destin, de le construire, ce qu'a fait Marguerite Yourcenar. Il y a aussi ce clin d'œil, je trouvais intéressant pour les enfants, Marguerite Yourcenar n'est jamais allée à l'école. Je le mets aussi ça en avant, c'est justement l'école de la liberté. Elle a appris toute seule, dans les livres, en voyageant, en allant dans les musées. Pour des enfants, je trouve que c'est aussi quelque chose d'important de se dire qu'il y a aussi un avenir hors de l'école, qu'on peut se mettre à rêver, qu'on peut sortir dans la rue, voir des choses, être curieux et se créer son propre destin.
Il y a aussi cette ouverture vers les cultures orientales.
Ça, c'est une passion, j'allais dire, que je partage avec Marguerite Yourcenar. Je vous ai dit que j'ai vécu en Inde. Je suis parti en Inde sur les traces de Marguerite Yourcenar.
Et vous êtes né où, Ashmi ?
Moi, je suis Cévenol.
Vous êtes de partout, vous.
Je suis d'abord Cévenol. Je suis dans les Cévennes.
Résister,
voilà, la résistance dans les Cévennes, on sait ce que c'est. Mais j'ai beaucoup voyagé et je me suis intéressé aussi à toutes ces cultures grâce à Marguerite Yourcenar qui très tôt s'est passionnée pour le taoïsme, pour le Japon, s'est passionnée pour le bouddhisme, a voyagé en Inde, etc. Et à la fin de sa vie, a eu une vraie passion pour ce pays-là. Et cette curiosité, c'est quelque chose aussi qu'il a porté, qui était assez original. Aujourd'hui, j'allais dire, le bouddhisme, enfin, c'est devenu des choses qui sont très à la mode, le yoga, etc. Mais dans les années 40, dans les années 50, la tradition française, très peu d'écrivains français avaient cette ouverture d'esprit qu'avait Marguerite Yourcenar. Et je trouve que c'est important de le souligner.
Donc il faut que ces petits livres circulent bien, vite, et soient présents dans beaucoup de familles, parce que justement, c'est une façon maintenant que les familles puissent découvrir Marguerite Yourcenar avec l'aide ou en complicité avec l'enfant qui apportera ce livre à la maison. Voyez, et ça se situe donc dans tous les foyers.
Ah oui, il faut l'espérer, mais c'est vrai que ce livre, ça peut être justement un moyen de communication intergénérationnelle et que des enseignants le font lire à des enfants, que des enfants le découvrent en librairie, que des parents l'achètent pour... Le parent qui est aussi lecteur de Marguerite Yourcenar et qui a aimé Mémoire d'Adrien et tant de livres se dit « Ah, ben je vais pouvoir faire lire ce livre pour faire découvrir à mon enfant. Et comme je l'ai dit, si après l'enfant veut découvrir du Marguerite Yourcenar, il peut, puisqu'il y a certains livres extraits de nouvelles orientales comme Comment Wang Fu fut sauvé et quelques autres qui sont disponibles chez Gallimard dans la collection Folio Junior. Et d'ailleurs, souvent, les enseignants utilisent ces livres-là pour faire découvrir Yourcenar aux enfants.
Ce n'est pas à vous que je vais faire la démonstration suivante, mais épris de liberté comme vous l'êtes et de cette force de résistance, c'est vrai que nous n'avons plus besoin de nous fabriquer des idoles en 2011. Et tant mieux, car j'espère que ces périodes et ces âges sont révolus et dépassés. Mais le repère, le visage de celle ou de celui qui aura su résister en son temps, en son époque, de ses paroles vivifiantes qui nous remettent en marche et qui nous reconstruisent malgré les épreuves de chaque vie, nous en avons et nous en aurons toujours besoin de ces personnages repères comme une Yourcenar.
Oui, oui, je le crois vraiment.
Et c'est pour ça que vous y travaillez ?
Oui, enfin c'est par passion que je fais cela.
Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, Hachmi.
Merci de l'intérêt que vous portez à ce travail.
Hachmi Allais doit nous quitter. Nous reprenons dans un instant notre dialogue en compagnie de Céline Aymon, qui est co-responsable des éditions Adedane et de la collection des graines et des guides. Alors, Céline Aymon, ces ouvrages ne contiennent pas que du texte, il y a aussi des illustrations toujours en noir et blanc. Racontez-nous.
Donc, c'est une volonté de la collection de proposer une couleur selon chaque titre. Et à l'intérieur, nous avons des dessins uniquement noir et blanc. Nous faisons appel à chaque fois à des artistes qui font des créations originales selon les titres. Donc, c'est un travail en regard du texte. Et nous faisons appel à différentes techniques. Donc, il y a à la fois du collage, par exemple, sur le titre de Isadora Duncan, du trait simple, des encres.
Et là,
et puis, donc, pour Tanguy de Holo, on est sur un travail graphique de lettrine qui est vraiment atypique dans la collection, puisque c'est vraiment amusé avec le texte lui-même, avec parfois des sortes d'enluminures, et puis surtout des jeux graphiques avec les animaux qui parcourent
oui,
tout le livre.
Oui, on retrouve plein de petits lapins adorables. Et puis, donc, Tanguy de Holo, qui a été en résidence à la villa et qui donc s'est imprégné de l'atmosphère de Marguerite Yourcenar.
Oui, exactement. Donc en fait, lui, il est né à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, donc en Bretagne, et il a travaillé pendant très longtemps en librairie. Effectivement, là, il a mené une résidence à la Villa Montnoir autour de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, mais d'un point de vue pictural et de dessin. Et donc, Hachmi Allais, naturellement, lui a proposé d'illustrer le livre. Donc il y a à la fois des représentations figuratives et puis des choses plus oniriques autour du personnage de Marguerite Yourcenar ou bien de ses réflexions sur ses sources d'inspiration et les titres de ses livres. Et à la fin du livre, il y a même une invitation au lecteur à s'amuser autour de la lettrine Y qui parcourt tout le livre aussi pour Yourcenar.
Et on s'amuse comment,
et donc,
alors ?
Ah, l'idée, oui, c'est que les enfants s'amusent,
ah, oui,
à imaginer une lettrine pour leur propre nom de famille.
Ah,
sur le principe proposé
du
par Tanguy.
Du Y, et cet Y-là, on le voit aménagé, décoré, avec un corbeau, une petite chèvre blanche, un lapin tout en noir, etc. De jouer avec les lettres.
Exactement.
De s'approprier les mots, les lettres. Tout est sur un plan ludique, mais en même temps, l'enfant est pris au sérieux. Ne serait-ce que cette bichromie, le blanc, le noir, on rentre dans quelque chose, on prend l'enfant au sérieux, tout en restant sur un mode ludique, c'est tel que je le perçois, hein. Et tout en faisant les choses, là par exemple, il y a un petit phoque sur la banquise qui est en train de rigoler parce que le chasseur ou je ne sais quel bipède, c'est-à-dire nous, qui est en train de perdre l'équilibre sur un petit iceberg ou de s'éloigner d'eux. Donc lui, le petit phoque, là, n'aura pas de soucis cette année-là encore, il sera préservé. Donc il y a de l'humour, il y a des dessins accessibles à l'enfant. Il y a du rêve, je décris bien.
Oui, exactement. C'était vraiment l'idée de cette collection, de ne pas aller dans la couleur et dans la saturation de couleurs comme on voit beaucoup aujourd'hui dans le livre jeunesse, mais bien de laisser de l'espace pour la rêverie à l'enfant. C'est-à-dire que le dessin en lui-même est achevé en noir et blanc, mais il laisse de l'espace à la création et à l'imagination. Et en cela, je trouve que cette collection est réussie. Et justement, c'est aussi pour faire découvrir différentes pratiques artistiques à l'enfant qu'on a choisi ces différents artistes. Donc, on participe aussi à la découverte de jeunes illustrateurs Je pense notamment à Julia Perrin, Pauline Sio. Après, nous avons des signatures beaucoup plus renommées, telles que Zahu, hein, qui vient d'avoir le Grand Prix 2011. Mais des choses extrêmement sensibles, par exemple les encres de Raphaël Hyde sur le titre de Donald Winnicott, sont d'une pure poésie et vraiment accompagnent merveilleusement le texte. On n'est pas dans l'illustration du texte, mais bien dans le prolongement à travers des images de grande qualité.
Et à une époque où la recherche du sens, la recherche, comme on en parlait tout à l'heure avec Hachemi Allais, du repère, je trouve que cette collection vient à point nommé.
Oui, elle arrive dans un moment où, justement, on a besoin de passeurs. Vous parliez d'idoles tout à l'heure. On n'est pas dans la sacralisation du personnage, mais on a besoin, je pense, encore plus aujourd'hui, de s'attacher à des figures qui ont porté des utopies. Et je pense que pour un jeune lecteur entre 7 et 12 ans, qui est un âge où l'âge de tous les possibles, où on commence à choisir soi-même ses lectures, on peut commencer un petit peu à s'affranchir des choix donc dictés par l'école et on peut s'imaginer tous les métiers du monde parce qu'on n'est pas encore dans l'adolescence et ces autres points d'occupation. Voilà, ces personnages-là peuvent permettre de se créer une vocation.
Alors vous avez une très belle définition pour votre collection des graines et des guides. Vous écrivez « Découvrir les femmes et les hommes qui ont changé le monde ». Pour que les enfants, à leur tour, continuent de changer le monde. Donc, de 7 à 12 ans et plus, dites-vous, parce que on peut changer le monde à tous les âges. Et puis alors, on peut se procurer ce livre avec 7 euros, donc accessible.
Oui, oui. On nous surnomme souvent des bonbons de lecture et on aime beaucoup, beaucoup ce terme. Et c'est vrai qu'au bout de 2 ans d'existence, on n'est pas peu fier que la revue nationale de la Bibliothèque nationale de France, la revue des livres pour enfants, nous ait choisi parmi les 100 meilleurs titres de l'année. C'est une très très belle reconnaissance pour une toute jeune maison d'édition.
Une reconnaissance de cette année 2011
En fait, c'était 2010 déjà. Dès la première année, ils ont senti que c'était un projet très ambitieux, avec des choix artistiques. Pareil, ambitieux. Oui, Donald Winnicott ou Catherine Cousmin, ce sont des personnages qui ont une importance dans leur milieu, mais de le faire découvrir comme ça de manière générale à un jeune public, on nous fait souvent la remarque du courage qu'on a pu avoir dans ce choix-là.
Eh bien, continuez à avoir ce courage. Merci de votre venue devant les micros de Canal Académie.
Merci à vous.